RCF.
Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui traverse les siècles et qui continue d'alimenter débats et discussions. Nous évoquons le péché. Mais pas seulement, parce que derrière ce mot se glissent les notions de faute, de culpabilité, de pénitence, de réparation et de pardon et de salut. Nous en parlons avec mes invités aujourd'hui. Marie-Françoise Basselez, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes historienne des religions de l'Antiquité, professeure émérite à l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez écrit également deux livres que je cite, donc « Comment les chrétiens deviennent catholiques » aux éditions Talendier et « Après Jésus, l'invention du christianisme » chez Albin
J'ai
Michel.
J'ai participé à une équipe nombreuse.
Voilà, une grosse équipe, mais c'est un beau livre qui vient de paraître. Et puis avec nous aussi aujourd'hui, Jean-François Petit, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes philosophe et théologien à l'Institut catholique de Paris. Vous avez publié aussi quelques livres, dont les derniers. Ils furent pris d'une grande frayeur aux éditions Saint-Léger, et c'est tout récent, ça parle de la pandémie. Et puis Michel Foucault, Michel de Certeau, Dialogue inachevé aux éditions Parole et Silence. Mais vous êtes ici aujourd'hui pour parler de notre thème. Qui a inventé le péché? C'est le thème du dossier du monde de la Bible, et nous avons Benoît de Sagazan avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour Faustine, bonjour à tous.
Vous êtes donc le rédacteur en chef du Monde de la Bible. On va évoquer ce beau dossier aujourd'hui et cette grande question: qui a inventé le péché?
Grand angle proposé par Faustine Fayette.
Alors, le thème du péché, donc Benoît, on va commencer avec vous. Le thème du péché est venu par le biais de la culpabilité, je crois. C'est ce dont vous parlez dans l'article, un petit peu d'ouverture en fait de ce dossier. Et la question derrière que vous posez, c'est: la culpabilité est-elle judéo-chrétienne? Alors c'est autour de cette question que vous avez un peu construit le dossier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment vous avez réfléchi à ce thème-là?
Ben exactement, oui, parce qu'on entend souvent dans les conversations qu'on peut avoir avec les uns et les autres revenir cette idée que tout nous viendrait de notre culpabilité judéo-chrétienne, comme si on devait traîner cette culpabilité comme un boulet qui serait issu à la fois de la Bible et de notre christianisme, et que nous ne pourrions pas nous en libérer, et que ça pèserait tellement sur nos consciences que cela nous interdirait et nos relations sociales, nos relations à autrui, et ça nous empêcherait de vivre un petit peu sans entrave et sans liberté. Et en creusant le sujet, on a voulu vérifier d'abord cet axiome: est-ce que le péché, est-ce que la culpabilité est vraiment judéo-chrétienne? C'est pour ça que nous sommes allés interroger les civilisations antiques, que ce soit mésopotamienne, égyptienne, gréco-latine. Et puis nous avons interrogé bien sûr la Bible, les évangiles, ce que nous dit Jésus, la culpabilité. Nous avons essayé d'interroger aussi ce que dit le christianisme, ce que dit l'Église. Et donc vous avez des auteurs de ce dossier à côté de vous.
Oui.
Et puis voilà, donc on a essayé de répondre à la question.
Mais on avance comme ça dans le temps, en fait, et vous interrogez comme ça les différentes civilisations. Alors, je voulais revenir, il y a un petit papier que vous avez écrit, enfin, qui n'est pas un petit papier, un article sur les sept péchés capitaux. Alors, c'est peut-être un peu anecdotique, mais en même temps, quand on parle du péché, très vite, on va dire, tout le monde pense un peu en arrière-plan de notre culture aux sept péchés capitaux. Et vous dites dans votre article d'introduction: ils sont célèbres mais incompris. Alors pourquoi?
Ils sont célèbres parce qu'on en parle souvent comme une caricature, en fait, un petit peu. On les trouve soit désuets, ils sont souvent déconsidérés, soit on les trouve qu'ils ont tous une origine médicale ou psychique. Voilà, et puis souvent on s'en moque un petit peu, on dit qu'ils sont capitaux, parce que la gourmandise est vraiment un grand péché, est-ce que la paresse serait un grand péché, alors que tout le monde a en tête la chanson travailler c'est la santé, oui. Mais ne rien faire c'est la conserver, quoi. Mais donc à travers toutes ces idées-là et la perception que l'on a de ces sept péchés capitaux, on se rend compte finalement que qu'il y a une méprise déjà. Est-ce qu'on saurait tous les nommer aujourd'hui?
Déjà, les sept péchés capitaux.
Est-ce qu'on se méprend pas non plus sur le mot capital et sur ce qu'il signifierait? Voilà.
Alors,
c'est ça que j'ai voulu ébaucher.
C'est intéressant parce que vous dites qu'il y a une question de perception qui a évolué. On verra ça avec effectivement mes invités tout à l'heure. Mais on voit bien que peut-être il y a une notion du péché qu'on prend un peu plus à la légère.
Oui, c'est ça. On dit souvent des générations plus anciennes, celles qui ont été catéchisées notamment, que ils pêchent, mais ils savent ce que c'est que pêcher, que les autres commettent des fautes sans savoir qu'ils pêchent, quoi. En fait, c'est ça. Il faut avoir conscience du péché. C'est un peu ce que dit aussi à la fin de l'article Jacques Arène, quoi. C'était de la connaissance de la culpabilité naît la connaissance de soi. Donc, voilà. Après, c'est tout ça qu'il faut remettre en ordre et qu'il faut essayer d'agencer.
Alors évidemment, voilà. On invitera nos auditeurs à plonger dans ce dossier pour découvrir un petit peu cette plongée-là.
Les concepts se raffinent, que les choses se compliquent. Et puis même l'histoire des sept péchés capitaux, ils sont nés à une époque, ils ont évolué, la liste a varié. Et elle s'est figée à un moment au 4e concile du Latran en 1215, mais pour connaître un petit peu une forme un peu plus définitive. Mais on voit que tout ça évolue dans le temps, que ça bouge, que ça se travaille. Et savoir qu'est-ce que ça veut dire finalement, qu'est-ce que ça veut dire, quoi cette culpabilité, quelle est la notion même de péché. Qu'est-ce qu'elle dit de notre relation envers soi-même, envers les autres, envers Dieu? En fait, tout ça se noue autour de la relation à autrui.
C'est comme ça que vous me faites une belle transition avec justement l'entretien de Jacques Arène qui clôt un peu ce dossier, parce que vous mettez en lumière finalement cette notion de culpabilité avec la psychanalyse et puis avec du coup aussi notre société contemporaine, et ça donne une certaine lecture de notre société. Alors je cite Jacques Arène dans cet entretien avec notre consoeur de la Croix. Dans le monde contemporain, la tentation est de projeter la faute commise sur autrui. La victimisation est une manière de se protéger de la culpabilité. Et après, un peu plus loin, il dit « Notre société encourage ce réflexe de chercher d'abord un responsable du mal. » Alors on évoquera justement tout à l'heure aussi la notion de bouc émissaire et de pharmakos. Mais et il poursuit « Alors que dans la tradition judéo-chrétienne, il y a l'idée que l'on participe tous au mal d'une manière ou d'une autre. » Donc c'est comme s'il y avait un glissement d'une façon de vivre la faute peut-être, ou la responsabilité, de porter la responsabilité.
Oui, exactement. Et puis, ce qui est intéressant de comprendre à l'issue de l'entretien de Jacques Arène, mais aussi à l'issue du dossier, c'est que si le rire est le propre de l'homme, on se rend compte que la culpabilité est le propre de l'homme. La faute, elle existe dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, dans tous les contextes culturels qui ont existé. Et donc, c'est pas propre au christianisme ou au judaïsme. Parce que finalement, cette culpabilité, enfin on parle de culpabilité judéo-chrétienne, mais l'homme est né coupable, hein, qu'il soit chrétien ou pas, la culpabilité, elle existe. On voit même en Asie que la culpabilité se traduit à travers par un sentiment de honte, et quand on perd la face vis-à-vis de la société, la sanction elle est dramatique. Et ce qui introduit justement la notion de péché judéo-chrétien, mais ça, Jean-François Petit en parlerait beaucoup mieux que moi, c'est cette possibilité aussi de réparation, de rémission. Il y a quelque chose qui est réparable. Et en fait, c'est une libération plutôt que d'être un enfermement. Et pourtant, beaucoup de contemporains vivent cela comme une contrainte et un enfermement, cette notion de péché. Alors que c'est le contraire qui devrait se passer. Voilà.
Alors vous nous ouvrez une perspective sur le péché, c'est bien, parce que quand on ouvre cette émission, on se dit bon, un thème sur le péché, ça va être un peu lourd peut-être, ça nous enferme. Mais non, il y a une libération derrière. Alors justement, je voudrais interroger mes invités, donc Jean-François Petit et Marie-Françoise Basselès. Vous avez participé à ce dossier, chacun avec les thèmes sur lesquels vous avez été interrogés. Donc plutôt la notion de bouc émissaire avec vous, Marie-Françoise, et plutôt la notion, enfin l'évolution de la notion du péché dans l'Église. Quand vous avez réfléchi à ce dossier, à ce thème, ce thème du péché, est-ce que vous avez dit, oh là là, c'est plombant?
Ou non, je l'ai évacué tout de suite. Du fait que le péché n'existe, la notion même de péché n'existe pas dans le monde gréco-romain. Ouais. La notion de faute, et le même mot désigne la faute et l'erreur. C'est-à-dire ce que vit le dévot, c'est une rupture de sa relation avec le Dieu, avec les dieux. Et sans qu'il comprenne pourquoi. Oui, il faut d'abord découvrir d'où vient la rupture de cette relation.
Donc, dès l'Antiquité, il y a cette notion-là.
Oui, mais c'est pas le péché.
C'est pas le péché.
C'est pas une réflexion sur sa culpabilité éventuelle, sur sa responsabilité. C'est que le rituel n'est plus opérant. La relation avec les dieux est rompue. Au niveau communautaire et au niveau individuel. Donc, on a fait une erreur quelque part. Mais c'est une religion surtout orthopraxique, la religion du monde gréco-romain. Donc, le rituel est opérant quand tout est fait suivant les règles. Donc, l'erreur, on la cherche là. D'abord, une transgression rituelle, très matérielle en définitive. Et on arrivait donc à une faute éthique, communautaire d'abord, puis tardivement individuelle, à l'époque où émerge le christianisme. C'est encore beaucoup plus long. Et souvent, donc, c'est l'incompréhension qui domine. Et des procédures comme le bouc émissaire, une parmi d'autres, hein, il y en a d'autres, répond à cela. On ne sait pas ce qui se passe, donc on a une conduite finalement polyvalente.
On va revenir sur la notion du bouc émissaire et ce rituel.
C'est pas un rituel, justement.
Ouais, alors on va vous allez détailler justement.
C'est une pratique, mais c'est justement pas un rituel.
Jean-François Petit, quand vous.
Oui,
êtes,
moi,
vous
moi
avez
ce qui m'a intéressé vraiment, c'est l'évolution de la conception du péché, parce qu'en fait, ce qui est n'a pas toujours été, et même au sein de la théologie du corpus. Chrétien, on n'a pas eu la même conception, donc qu'on se réfère à l'Antiquité, qu'on se réfère au Moyen-Âge ou qu'on se réfère à la période contemporaine. Et je crois qu'effectivement, Benoît le dit bien dans le propos introductif qu'il vient de tenir, on est aussi très prisonnier de représentations d'un imaginaire. En rentrant dans cette maison ici à Bayard aujourd'hui, je me suis rappelé le grand catéchisme de Bayard qui représentait justement les sept péchés capitaux, alors avec tout l'imaginaire du 19e siècle où on voit des enfants qui essaient se détourner de la ville qui est considérée comme un lieu malfaisant. Donc vous voyez, c'est aussi pour vous dire que chaque époque a essayé de reconsidérer ce que ça pouvait être dans ce qui est, alors là on viendra après un peu sur quand même le socle dur, ce qui est de l'ordre d'une transgression, d'une rupture volontaire de relation, hein, tel qu'on le comprend dans le christianisme. Mais je crois que c'est important de se dire aussi que on fait déjà un travail heureux quand on arrive à distinguer le péché de la culpabilité. Et ça, je crois que beaucoup de nos contemporains sont aujourd'hui tenaillés par des formes de culpabilité. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé pendant la première confinement, mais enfin bon, de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir pu, etc., etc., qui ne sont pas forcément directement du péché, ce qu'on qualifie de transgression volontaire, délibérée, pleinement consciente, d'une relation à Dieu, aux autres, à soi-même.
Justement, Benoît de Sagazan, quand vous avez réfléchi à ce thème de dossier. Le confinement, on était déjà dans la pandémie ou est-ce que ça a pris une tournure différente du fait de la pandémie, le confinement, tout ça? Comment ça résonne?
Alors, pas du tout, parce que vous imaginez que dans un trimestriel, les sujets, on les choisit généralement parfois un an avant ou avant leur publication. Donc, il n'était pas question de pandémie lorsqu'on l'a traité, mais c'est vrai qu'au moment, nous avons bouclé ce numéro pendant la pandémie, et c'est vrai que je me souviens, par exemple, nous avons une conversation avec Marie-Françoise Bachelet, qui nous a demandé est-ce qu'on peut parler de la pandémie. Et je pense que dans les premières lignes de son article, elle raconte cela, justement. Ce serait mieux que ce soit elle qui vous le raconte, d'ailleurs. Mais c'est vrai que forcément, ça résonne forcément, parce que la faute, de qui la faute? Est-ce que la pandémie, on va rejeter la faute sur les Chinois et en demandant que les Chinois s'excusent?
Mais oui, c'est ça. C'est une
question. Mais voilà, il y a aussi tout ce qu'on n'a pas fait pendant le confinement, pendant l'attention plus faible, l'attention plus fragile. Est-ce que nous sommes responsables? Voilà, enfin, il y a bien sûr que forcément, nous avons ces questions-là dans la tête. C'est vrai que la gestion des pandémies, il y a un des auteurs familiers du monde de la Bible, qui est David Davidovich, qui est aussi donc professeur de judaïsme, d'histoire du judaïsme ancien à l'Université de Lausanne, qui a écrit un livre justement récemment sur l'imaginaire biblique dans la gestion des pandémies. Et entre les plaies d'Égypte et les pandémies, il y a un lien, quoi. La Bible a nourri l'imaginaire du Moyen-Âge et de la peste, des grandes pestes, et c'est vrai qu'on est encore habité par tout cela. Forcément qu'il y a un lien.
Ouais. Tout ça, ça traverse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des notions qui sont vraiment propres à l'homme et ça traverse forcément les civilisations, le temps. Et ça nous questionne aujourd'hui encore sur notre façon d'agir, notre mode de penser. Et voilà, ça évolue.
Tout,
ça nous...
Voilà, ce que j'ai envie de dire en une petite formule facile, c'est que tout est nouveau, mais rien n'est vraiment neuf.
Merci beaucoup Benoît de Sagazan. Donc on vous quitte maintenant puisque vous êtes aussi vous-même confiné, mais on va poursuivre toutes ces notions-là. On va plonger donc dans cette notion de la faute, du péché, évoquer le bouc émissaire. On continue cette émission. On se retrouve tout de suite après une pause musicale. Vous êtes dans Grand Angle sur RCF.
Te bénis et te garde,
il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce.
Ton Dieu seul tourne vers toi,
te donne la paix. Te donne paix. Amen. 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 Amen.
La bénédiction. Alors c'est un chant qui a quand même une petite histoire. C'est un chant qui est écrit par Elevation Worship. C'est un chant américain et qui a été repris en version française pendant le premier confinement par une centaine d'églises catholiques et protestantes. Et donc c'est cette version que vous entendez. Vous pouvez la retrouver en réécoutant cette émission, d'ailleurs en podcast sur notre site rcf.fr. Vous êtes dans Grand Angle sur RCF.
Grand Angle, RCF.
Donc, nous parlons aujourd'hui du péché, avec cette grande question: qui a inventé le péché? Et la question dont nous venons de parler avec Benoît de Sagazan, puisque cette émission est en partenariat avec Le Monde de la Bible, Benoît de Sagazan est son rédacteur en chef. Le dossier qui a inventé le péché tourne autour aussi de la question de la culpabilité judéo-chrétienne, et puis de l'évolution un peu de ces concepts, mais pas simplement des concepts, de tout comment c'est vécu à travers les civilisations. La culpabilité, l'expiation, on va dire. Et donc, avec moi pour en parler en studio, Marie-Françoise Basselez, donc historienne des religions, et Jean-François Petit, philosophe et théologien. Alors, je me tourne vers vous, Marie-Françoise, parce qu'on va revenir un petit peu en amont. Et pour répondre à cette question de la culpabilité est-elle judéo-chrétienne, on sait que tout ça s'est vécu bien avant, dans l'Antiquité. Et la notion de faute, d'erreur dont vous parliez, c'est avant la religion chrétienne.
De faute, tout dépend de ce qu'on entend par là. Encore une fois, donc, d'une part, on ne peut vraiment pas dire, je ne pense pas que l'historien dirait que le péché a été inventé avant ou en dehors du judéo-christianisme. Parce que le péché suppose une prise de conscience de responsabilité, suppose une question de proportionnalité entre la faute commise et la réparation, et suppose aussi une transcendance du divin. Rien de tout cela, donc, dans le monde gréco-romain, où l'expérience de ce qu'on peut appeler la faute est toujours collective, au moins jusqu'à l'époque du christianisme, est toujours collective, d'une part. Et d'autre part, donc, la faute, c'est une erreur. C'est-à-dire, la communauté constate à un moment donné, c'est pour ça que je parlais de pandémie avec Benoît en pensant à ce dossier, constate à un moment donné par une situation de crise qui peut être soit une catastrophe naturelle, séisme, incendie, soit une épidémie, une situation de crise que la relation avec la divinité est rompue. Elle ne se déroule pas comme il faut et donc les cultes sont inopérants, les cultes tels qu'on les célèbre. Donc c'est une erreur. On ne comprend pas la responsabilité, qui apporte la responsabilité, on ne la cherche même pas en fait. Mais il faut comprendre donc ce qui affecte la relation de l'homme communautairement ou individuellement avec les dieux. Et par les Grecs, on ne l'a pas assez dit jusqu'à présent dans nos propos échangés, pour les Grecs et les Romains, ça passe par la notion de souillure. Pour qu'un rite soit opérant, il faut que les acteurs du rite et les victimes, d'ailleurs les victimes animales, soient pures. Donc, s'il y a une crise, si les dieux sont absents, ne répondent pas à l'épidémie, ne répondent pas à l'incendie, ne répondent pas au séisme, c'est que la communauté est impure. Et il faut donc remédier à cette impureté par des pratiques purificatoires dont le bouc émissaire n'est que l'un d'entre eux.
Hein. Ah oui, alors, dans le monde grec, c'est le pharmakos. Alors, c'est un peu le bouc émissaire grec.
Le bouc émissaire, en fait, c'est une catégorie tout à fait artificielle qu'ont créé les historiens des religions, les psychologues, je ne sais pas lesquels, ou les deux à la fois, d'ailleurs. À partir de la Bible, où dans la Bible, effectivement, on expulse deux boucs dans le désert, censés emporter avec eux, donc, les fautes du peuple d'Israël. Et à partir de ce moment-là, donc, on a créé cette catégorie générique où on a fourré dedans toutes les procédures de purification par expulsion qu'on pouvait connaître ailleurs, très différentes les unes des autres, suivant les cultures et dans les époques. Donc, le pharmakos n'a rien à voir avec le nom grec de cette pratique purificatoire, n'a rien à voir avec le bouc.
Oui.
Pas du tout.
Hein. Ça veut dire quoi, pharmakos ?
Médicament, d'où pharmacie.
Voilà.
Médicament, médication serait peut-être plus exact, qui peut être à la fois bénéfique ou maléfique. Le mot s'applique aussi bien à des filtres d'amour, des filtres d'empoisonnement, est-ce que vous voulez, qu'à une médication bienfaisante. Donc, une situation de dérèglement des relations avec la divinité, absente, qui n'écoute rien, qu'on n'atteint pas, qui fait prendre conscience d'une situation d'impureté ou de l'existence d'un élément d'impureté dans la communauté, dont on ne cherche pas qui en est responsable en définitive, mais à laquelle on cherche de trouver une procédure ou une conduite de purification appropriée.
Et alors, en quoi ça consiste concrètement, ce rituel ?
Pour le comprendre, il faut revenir à cette idée donc, que dans le monde grec et romain, la vie est communautaire. L'homme privé n'existe pas. Et l'individu n'émerge finalement qu'à l'époque où émerge le christianisme, au début de notre ère, premier, deuxième, et surtout deuxième siècle. Et là, effectivement, il y a des mouvements d'évolution parallèle entre la culpabilité gréco-romaine ou païenne, si vous voulez, la culpabilité chrétienne. Mais avant, donc, l'être humain n'existe qu'en communauté. Et pour eux, donc, le corps civique, la communauté politique organisée fonctionne comme le corps biologique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le corps est malade ? On essaie de le soigner par des cataplasmes. Pour ça, ça peut être un ex-voto, ça peut être un pèlerinage, ça peut être ce que vous voulez. Si c'est plus grave, qu'est-ce qu'on fait ? On ampute. On supprime la source du mal. Et le bouc émissaire, c'est cela, finalement. C'est supprimer, c'est amputer le corps civique de l'élément contaminé qui rompt donc cet équilibre, cette relation avec le divin. On ampute. Alors, dans le cas le plus radical, c'est la mort. Dans le cas moins radical, c'est l'expulsion.
Mais alors, donc c'est la mort d'un animal ou c'est carrément une personne ?
Non, c'est un membre du corps civique. Jusqu'à présent, même pour Aristote, les animaux ne sont pas des membres du corps civique.
Oui.
C'est bien la notion de corps politique, de corps civique qui est à la base, qui se sent souillé dans son existence collective et dans son rapport collectif avec les dieux, puisque finalement toute la pratique religieuse des Grecs et des Romains est communautaire. la religiosité individuelle n'est jamais prise en compte. Et alors, donc ça aussi, ça joue dans la définition du péché et de la faute.
Comment ils choisissent cette personne qui va...
C'est bien simple. Il faut prendre le moins intéressant pour la communauté.
Alors ça va être qui, par exemple, dans la communauté grecque?
Ça peut être des condamnés de droit commun. Et à ce moment-là, ça joue un peu le rôle d'Ordalis. Ils en réchappent du sceau de l'ange. Mais bon Dieu, on peut estimer qu'on la récupère. En général, ils sont qualifiés de rebuts. Donc un miséreux, un ignorant, la laideur aussi, on choisira laid. Donc le moins intéressant pour un étranger. Et on peut dire en ce sens que la pratique du bouc émissaire, du pharmakos suivant les Grecs, garde quelque chose du sacrifice humain, qu'il y a des résidus plus importants qu'on pourrait le croire dans le monde grec et romain. Et là, donc des étrangers aussi. Si on doit sacrifier quelqu'un, on ne prendra pas un citoyen, membre du corps civique, on prendra un étranger. Donc le moins intéressant. Mais il faut aussi qu'il ait l'air d'aller de bonne volonté à ce qu'il attend, comme la victime animale lors des sacrifices, qui vient donner l'apparence d'être volontaire. Donc pour cela, pendant un an ou quelques mois, on le gâte, on le pare, on l'engraisse.
Il est volontaire pour ça? La personne choisie...
C'est comme la victime sacrificielle. Il vient donner l'impression d'être volontaire.
Ouais. Donc on l'engraisse pendant un an.
Oui.
Enfin, il est choyé pendant un an.
Il est choyé, il est hébergé, nourri, habillé, etc.
Et après, au bout d'un an... Comment ça se passe? Une procession
on le conduit, oui, c'est assez compliqué parce que à la grande époque d'Athènes, qui est une communauté politique quand même sophistiquée à l'échelle de l'Antiquité, donc il y a toute procédure en signification. On le conduit aux limites du territoire pour montrer que tout l'ensemble de la communauté est prise dans cette procédure donc de purification. Et il encercle la communauté en quelque sorte. Donc, ce qui veut dire qu'il la ressoude, son expulsion ressoude la communauté dans son intégrité. Donc c'est vrai que l'itinéraire est un peu compliqué et que chaque geste a une signification politique, je dirais, ou communautaire, pour intégrer à la fois tous les éléments de la population et l'ensemble du territoire.
Et ça, d'ailleurs, dans ce que vous dites, je trouve qu'on retrouve ça toujours. Quand il y a un bouc émissaire quelque part, ça soude toujours. Si tout le monde se met face à une personne, ça soude forcément un collectif.
Ça soude deux collectifs. Celui qui est bouc émissaire, si j'ose dire, parce que souvent c'est un collectif ensuite dans l'histoire, hein, et celui qui désigne le bouc émissaire. Oui, il y a un processus d'identification réciproque.
C'est un mode de gestion de la violence. Hein. Quelqu'un comme René Girard l'a très bien montré dans sa théorie du bouc émissaire.
Oui, peu convaincante pour l'historien. C'est assez théorique, je dirais.
C'est d'un point de vue anthropologique.
C'est d'un point de vue anthropologique.
Voilà, c'est pas d'un point de vue historique. Mais la question, c'est de savoir comment on fait pour gérer la violence. Donc, effectivement, la violence, c'est...
Mais dans l'Antiquité, c'est pas la violence.
Non, voilà, c'est ça la différence.
C'est en ça que Girard est trop systématique.
Du côté anthropologique, vous disiez...
Ça veut dire que pour certaines sociétés, il faut désigner quelqu'un qui va porter finalement cette charge et la communauté ou la société en tant que telle refait son unité sur le dos de ce groupe.
C'est plus vrai dans la Bible.
Oui,
le bouc émissaire dans la Bible, c'est plus clairement cela.
Oui.
Tandis que dans l'Antiquité, c'est amputer un membre.
Voilà,
amputer le corps du membre. Qui le souille, qui l'abîme, qui le contamine et qui va le faire périr.
Est-ce que ça a évolué dans le monde grec? Un rituel qui a évolué?
Et alors, parallèlement, justement, à la diffusion du judaïsme et à l'émergence du christianisme. Oui. C'est pour ça que nous n'avions pas les moyens dans ce numéro de faire trop de transversalité, mais elle n'aurait pas été inutile, finalement. Ça évolue donc avec l'émergence de l'individu à partir du IIe siècle, qui touche autant les milieux païens, entre guillemets, que les milieux judéo-chrétiens. Et là, donc, il y a une intériorisation de la notion du mal, et je vais l'illustrer, et l'émergence d'une notion plus forte de responsabilité, Et je vais l'illustrer donc par une petite histoire qui est racontée, qui concerne donc un sage, un prédicateur itinérant du monde romain, un peu analogue au Christ ou à Saint Paul, auquel les païens donc l'ont souvent comparé. Donc cet homme, ce thaumaturge, ce sage, arrive à Éphèse au moment où sévit une épidémie, toujours la même chose, la prise de conscience que la relation ne marche plus avec les dieux, c'est très souvent l'épidémie. Donc une épidémie Et il propose immédiatement donc de recourir à la technique, à la conduite classique du bouc émissaire. Et il choisit un miséreux, comme il se doit, un type qui est avachi, donc sur un tas de pierres, sur l'agora. Et il propose, l'éradication du mal, si j'ose dire, est brutale. Il propose à la population d'Éphèse de lapider donc ce miséreux affalé donc sur l'agora. Donc c'est vraiment la pratique du bouc émissaire dans sa dureté, certes, mais dans son côté assez conventionnel. Mais au fur et à mesure de la lapidation, que va-t-on sortir donc de ce misérable affalé par terre ? C'est un démon aux yeux fulgurants, une puissance divine. Donc là, on voit quand même les choses évoluer. Nous sommes en responsabilité, d'une part, à la fois... est attribué maintenant à des forces du mal dans le monde tel qu'il est, ce qui n'était pas du tout le cas donc aux origines de la procédure. Et donc, en définitive, donc, on voit que ce récit conduit à réfléchir sur où est la responsabilité dans le mal qui vous affecte, quel est le niveau de culpabilité de chacun, et donc tout à fait et conclure donc à l'existence d'un principe du mal dans le monde tel qu'il est, ce qui est assez nouveau donc dans le monde gréco-romain.
Oui, là on arrive sur les notions plus la culture plus judéo-chrétienne,
plus religieuse en
plus
tout
religieuse.
Cas.
Oui. Pour revenir sur cette question du bouc émissaire, est-ce que je me tourne vers Jean-François Petit, est-ce que le sacrifice du Christ peut être compris comme une sorte de bouc émissaire?
Il était compris, mais ça donnait lieu aussi à beaucoup de mésinterprétations et de difficultés de compréhension. Bon, le fait de considérer Jésus comme un bouc émissaire, c'est renvoyer aussi tout un imaginaire qui peut un peu nous piéger, parce qu'effectivement, est-ce que la société avait besoin de rétablir son unité sur le dos de quelqu'un qui lui-même endosse les habits d'eux? Bon, ça se discute. Moi, je pense qu'il faut...
Caïphe dans les évangiles.
Oui.
Mais il faut qu'un homme
seul
meure, voilà, pour tout le peuple.
Pour tout le peuple.
Ah oui.
Ça, c'était peut-être un peu l'idée commune entre le bouc émissaire selon les Grecs
et
la conception
judéo-chrétienne. Mais en même temps, je crois que c'est difficile, parce que bon, faut déjà comprendre ce que c'est que du point de vue de l'alliance vétérotestamentaire, dans l'Ancien Testament, comment se joue cette compréhension du péché. Et c'est après seulement qu'on peut voir comment est-ce que le Christ, Jésus en tout cas, rentre dans cette dynamique-là et la remodèle, la réoriente à partir de ce qu'il est lui-même. Donc ça, c'est tout à fait un autre volet. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que dit ma collègue, c'est qu'effectivement, c'est aussi sur un horizon des civilisations orientales que le judéo-christianisme se développe. Donc il n'en est pas totalement...
Oui, donc il y a un terreau culturel de
toute façon. Bien sûr, bien sûr. Et la grosse question, ça va être pour les premiers chrétiens de faire comprendre la spécificité du judéo-christianisme, en tout cas, bon, de cette nouveauté de sa radicalité absolue, sur une prérequis ou des présupposés qui sont très 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 différents. Et ce travail d'adaptation, c'est le travail d'inculturation en fait.
Et on voit déjà une évolution entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Bien sûr. Alors bon, évidemment, dans le Premier Testament, c'est souvent sous le cadre d'une rupture, d'une alliance qui a été promulguée, dans lequel on se détourne collectivement.
C'est une transgression, finalement.
Transgression directe. Bon, on pense au décalogue, on pense aux 10 paroles, on dit comme on le veut, mais en tout cas, c'est plutôt sous cette modalité-là que ça se joue, tandis que le phénomène d'individuation que Raphaël Bacelès a déjà commencé à décrire va se jouer fortement sur la personne même du Christ.
Et on a des témoignages intermédiaires, justement, de cette évolution parallèle des sensibilités éthiques, religieuses, mais vers l'individualisme et la personnalisation dans le christianisme et dans le paganisme, toujours entre guillemets. C'est ce qu'on appelle les stèles d'expiation et de confession, c'est-à-dire quand la notion donc de rupture avec les dieux n'est plus seulement communautaire, une épidémie, un tremblement de terre, etc., mais devient personnelle à travers l'épreuve de la maladie, qui est lue donc comme une extériorisation, elle aussi, donc, de l'impureté. D'une impureté, mais d'une impureté personnelle, cette fois, qui porte atteinte, donc, à ma relation personnelle, cette fois, avec le Dieu. Donc, là, on arrive à une intériorisation et une évolution de la culpabilité qui est tout à fait importante. Et depuis quelques années, enfin, une vingtaine d'années, on trouve, en Asie mineure, l'actuelle Turquie, toute une série de documents de l'époque d'émergence du christianisme, 2e, 3e siècle, mais païens, ces documents. qu'on appelle les faute de mieux les stèles d'expiation, les stèles de confession, où on voit donc des personnalités, des individus prendre conscience à travers leur maladie, des rechutes, etc., qu'ils ont fait quelque chose qui les met en rupture avec le Dieu. Et au bout de cette prise de conscience, donc, il y a réparation. Alors, je dirais que c'est une réparation tarifée, cette fois. C'est plus le système du bouc émissaire, on ampute la racine du mal. C'est une réparation tarifée. C'est l'ex voto qui, d'une importance plus ou moins, une importance variable, donc, qui va représenter la réparation demandée par les dieux. Quelquefois, c'est une restitution. On rendra le manteau qu'on a volé à son voisin, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, on voit évoluer et la notion de responsabilité, de culpabilité personnelle et également de réparation.
Ce qui va intéresser beaucoup des gens après, comme Michel Foucault, hein, donc, voilà, lui qui s'interroge sur les processus de véridiction, il trouve dans l'Antiquité et aussi dans le christianisme des pratiques d'examen de soi, hein, qui amènent à faire une vérité, hein, sur ce que l'on est. Et ça, c'est ce qu'on appelle après, par la suite, l'invention de l'homme occidental. Et donc, je pense qu'on ne peut pas dissocier effectivement ce que nous sommes aujourd'hui de ce fond culturel, mais surtout de cette évolution longue qui a amené chacun à s'interroger sur lui-même. Alors, effectivement, après, selon quel filtre, selon quels critères, selon quelle modalité, hein, dans le christianisme, c'est d'abord dans le cas d'une rupture d'une alliance.
Il y a un autre élément intéressant pour cette évolution, à la même date, toujours, enfin, au premier siècle de notre ère, c'est l'apparition des exorcismes. Comme on le souligne souvent, l'exorcisme n'existe pas dans l'Ancien Testament. Alors qu'il est omniprésent dans la mission de Jésus et ensuite dans les missions apostoliques
de Saint-Paul.
De Paul en particulier et des autres. Donc l'exorcisme, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi une intériorisation du mal. Il y a la notion de culpabilité. Parce que ce mal qu'il faut éradiquer et qu'on éradique au début en amputant le membre contaminé, désormais, donc, il faut l'extirper de l'intérieur de soi.
Ça me fait penser quand même ces questions-là à cette fameuse phrase « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Pour que s'il y ait ça qui me tombe dessus ?»
Oui, ça, c'est les stèles d'expiation dont je parlais, voilà. C'est ça, engage-là.
Oui, bon, je pense que la culture populaire en a gardé une trace. Moi, je pense que ce qui est important, surtout pour nous aujourd'hui, c'est de dissocier ce qui relève de la culpabilité, hein, d'un point de vue humain, anthropologique, et ce qui est authentique péché. Et là, je pense qu'il faut rentrer un peu dans les détails quand même, hein, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de théories aussi là-dessus, sur la culpabilisation, on l'a dit tout à fait au début de l'émission, la culpabilisation liée à notre arrière-fond judéo-chrétien. En fait, non, je pense que c'est plutôt la nature humaine qui nous pousse, dans certains cas, à vouloir porter ou de mal apprécier ce qui a été fait, alors que le péché, justement, aurait plutôt tendance, si on le nomme bien, hein, si on arrive à l'identifier, si on arrive aussi aux procédures de contrition, de réparation qui vont avec, dans le christianisme en tout cas, à faire en sorte d'en sortir. Or, ce que je constate, c'est quand même que dans certains cas, on a tendance à mélanger les deux registres et que les gens portent le poids de culpabilité sans se rendre compte qu'elles ne sont pas, dans certains cas, assimilables à un péché. Et effectivement, dans certains cas, ils n'ont pas une notion très très claire, hein, du péché. Par exemple, je trouve très intéressant, mais là on passe tout de suite à la période contemporaine, on va faire un grand saut dans l'histoire, c'est que dans le discours social de l'Église contemporaine, on a beaucoup mis l'accent sur les structures de péché, le péché collectif. Et c'est pas simplement renvoyer chacun à ce que j'ai fait, si j'ai trop mangé de confiture ou pas assez, hein, c'est aussi voir quelles sont nos structures globales, et là vraiment en période d'épidémie on peut s'interroger aussi là-dessus, hein, qui n'ont pas fonctionné, qui sont aussi le fruit d'une démission collective et d'erreurs volontaires.
Le côté systémique.
Oui, Jean-Paul II l'avait très, très, très bien montré. Je pense que cette notion-là, on devrait la revaloriser, hein, beaucoup plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on est dans des sociétés, en tout cas au niveau occidental, très, très individualisées. Bon, c'est une tendance de fond. Mais je pense qu'on a aussi à reprendre conscience de l'intérêt, de la nécessité, puis de la vertu, j'avais presque envie de dire la vertu de dynamique communautaire, hein, qui peut aussi nous sauver, parce que ce qui est en jeu derrière...
C'est la vertu aux origines, justement.
Voilà, et donc ça serait très, très intéressant.
Mais au fond, ce que ne supporte pas la culpabilité, c'est d'abord se sentir, être malheureux d'être en rupture avec la divinité, c'est ça.
Oui, c'est
ça le sentiment, l'expression la plus commune de la culpabilité.
On va revenir sur cette notion-là et on va avancer dans le temps et avec l'Église peut-être et passer donc de ce monde antique au monde judéo-chrétien pour comprendre un petit peu comment s'est établie cette notion de péché justement au fil des siècles. On revient tout de suite et on écoute une petite musique avant cela.
above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified,
Michael Smith, vous êtes sur RCF.
Grand angle, Faustine Fayette.
Nous évoquons la notion de péché et cette question qui a inventé le péché. Eh bien, j'espère que la réponse sera peut-être un peu, qu'on va vous apporter une réponse un peu éclairante. Aujourd'hui, avec moi en studio, donc Marie-Françoise Basselez, historienne des religions de l'Antiquité, et nous venons de parler de ce pharmakos, ce bouc émissaire grec, et toute la notion pas de faute justement, on disait d'erreur de cette rupture. En fait, avec les divinités à l'Antiquité. Et puis maintenant, je vais plus laisser la parole à Jean-François Petit, donc philosophe et théologien. Et avec vous, je voudrais qu'on revienne vraiment sur peut-être l'invention peut-être du mot péché. Alors, quand on parle quand on dit péché, on pense aussi peut-être spontanément au premier péché. Alors, est-ce que c'est Adam et Ève qui ont inauguré le péché?
Alors, on leur prête beaucoup de choses, hein, voilà. Non, je pense que quand on regarde les livres de la Genèse, précisément au chapitre 2, on voit qu'on a une présentation effectivement du péché qui est une parmi d'autres. Donc déjà, je crois qu'il faut relativiser et donner l'importance qu'elle mérite. Ensuite, effectivement, Adam et Ève, c'est une façon de parler du péché, de cette transgression, de cette difficulté même à vivre une relation avec Dieu dans une rupture volontaire. Alors après, comment la chose a pu être réinterprétée, c'est ça qui est très 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 intéressant, parce que quand on pense à la période patristique ou la période plus contemporaine, effectivement, on a voulu donner et à la fois des explications et des illustrations qui sont pas toujours les plus heureuses. Je crois qu'il y a là effectivement quelque chose qui se cristallise. Qui essaie de dire que cette orientation fondamentale vers Dieu, qui devrait nous caractériser, eh bien, dans certains moments, elle vole en éclats, et que nous devons emporter la faute. Voilà, donc nous devons l'accepter. Alors, c'est peut-être pas très facile à faire entendre aujourd'hui, surtout quand on est dans la démesure et qu'on voudrait gouverner sa vie par soi-même. Je pense qu'il est important aussi de se redire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi qu'on pourrait interpréter comme une leçon de sagesse. Voilà.
L'origine du mot péché, c'est rater sa cible.
Oui, Amartya, oui. Alors bon, effectivement, on a cette idée d'un but, d'une visée. Et je crois que bon, effectivement, je pense assez spontanément, les gens
Epicatus en latin, alors oui. Quelle est l'origine?
Moi, je pense surtout à ces deux chemins. Voilà. Il y a un chemin de la vie et un chemin qui ne nous oriente pas vers la vie et que nous devrions aussi être capables de...
C'est les deux voies, ce thème.
Voilà, c'est le thème des deux voies.
C'est deux thèmes qui sont développés par les écrits chrétiens.
Que je trouve très, très intéressant à prendre en compte parce que, effectivement, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le discernement, les possibilités d'être amené à choisir le meilleur, ça ne se fait jamais simplement. Et nous devons aussi regarder ce qui est, je le redis, un peu rupture volontaire, hein, transgression délibérée, ce chemin qu'on commence à identifier. Voilà.
Il faut insister là-dessus, me semble-t-il, jusqu'au christianisme, au judéo-christianisme et au judaïsme. La rupture avec la divinité, elle est perçue, mais elle est subie par les Grecs et les Romains.
Oui.
Elle est volontaire.
Elle est volontaire et elle est transgressive. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une question de proportion et de mise en place d'un dispositif, si je peux me permettre un peu ce genre d'expression, hein, pour retrouver ce chemin.
Et ce qui change, en fait, c'est que Dieu est amour et donc Dieu peut pardonner. Il n'y a pas de pardon dans le...
Non, ça n'existe ni mot ni rien.
Bah oui,
non.
Voilà.
Non.
Donc à l'Antiquité, donc oui, ça c'est quand même
on connaît l'amnistie.
Et il y a une relation personnelle.
Romain, mais on ne connaît pas le pardon.
Et le
pardon aux ennemis, c'est certainement la caractéristique la plus distinctive, la plus forte du christianisme.
Oui, bien sûr, c'est ce qui est la caractéristique.
La
et puis incarné dans la personne de Jésus-Christ lui-même. Donc c'est aussi la façon de voir comment ça peut se mettre en œuvre concrètement, parce qu'effectivement, on peut avoir des approximations, mais qu'est-ce que ça concerne, enfin, quels sont les secteurs de la vie concrète, dans quel hémisphère ou dans quelle zone spécifique le péché se joue, c'est ça aussi qui est intéressant.
Mais en fait, on a l'impression qu'on touche finalement au cœur de la foi chrétienne dans cette faute et ce pardon donné. Est-ce que c'est pour ça que autour du péché il y a énormément de controverses et que ça a évolué, qu'on n'a jamais...
Le péché irrémissible, c'est une notion moderne, très moderne.
Très moderne, bien sûr, oui. Mais bon, et puis on a toute la caractérisation entre les péchés véniels, les péchés mortels.
Oui.
Bon, on a tout un travail fin ou que certains jugent aujourd'hui dépassé. Mais en tout cas, pour essayer de trouver aussi la miséricorde, les modalités de reprise par rapport à cette volonté fondamentale de l'homme d'être heureux. Je pense que c'est ça qui aussi caractérise notre être profond et puis la volonté de Dieu de nous accueillir tels que nous sommes. Donc là, il y a un champ énorme et qui fait jouer beaucoup, beaucoup de choses. Hein, notre volonté de repentir, est-ce qu'elle est sincère ou pas, notre compréhension de la gravité de ce que nous avons fait. Voilà. Et ça, c'est très, très intéressant de voir aussi comment différentes... sociétés au cours de l'histoire, notamment quand elles sont marquées par le christianisme, ont essayé de le prendre en charge.
Alors au Moyen Âge justement, il y a quand même une très forte notion du péché et puis voilà, il y a toutes
ces la réparation
parce qu'il y a tous ces pèlerinages.
Peter Brown a bien montré que la réparation prime presque sur le.
Oui,
c'est très fort.
Alors c'est très fort évidemment, ça va donner lieu à des pratiques et notamment parce qu'on peut pas parler du péché sans parler non plus de la pénitence, donc le sacrement de la réconciliation qui est arrivé. On ne peut pas parler du péché non plus sans parler de l'Eucharistie. Enfin bon, voilà, il y a aussi ces dimensions qui se jouent. Et à un moment donné, il y a une forme effectivement de société qui se met en place, qui va accentuer sans doute de façon démesurée, il faut vous le reconnaître aujourd'hui, ce poids du péché. Avec peut-être des choses à traverser que nous n'arrivons plus très bien à comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire cette peur aussi de la fin du monde, de la fin d'un monde, cette pression.
Mais ça s'ajoute.
Oui, qui s'ajoute.
C'est les notions de paradis, enfer qui sont très
donc
très prenantes,
qui sont omniprésentes chez certains. On a du mal aussi à se le représenter aujourd'hui, à mon sens.
Et il y a donc saint Augustin a écrit sur le péché. Alors sa position, elle a été controversée, elle a été débattue aussi.
Oui, évidemment, on va pouvoir discuter de ça ici dans ce studio. Bon, moi je suis un augustinien, donc je vais défendre un peu saint Augustin, y compris sa conception du péché des origines, et non pas du péché originel. Bon, saint Augustin est quelqu'un qui se débat avec la Bible et qui se débat avec des expressions, y compris même de saint Paul, et qui essaie de faire comprendre à son peuple, bon, c'est un évêque, au IVe siècle, un certain nombre de faits. Bon, il est dans une église aussi qui est à certains moments une église aussi divisée, où il veut favoriser la réconciliation, l'accueil mutuel des uns et des autres. Il y a un grand schisme qui s'appelle le schisme donatiste à l'époque. Bon, je passe les détails. Mais Effectivement, hein, on a souvent voulu disculper le christianisme et mettre un peu Saint Augustin en cause sur cette question du péché originel. Moi, ce que je trouve important de redire, c'est que c'est d'abord dans une herméneutique biblique qu'il faut arriver à comprendre hein, ce qui se joue. Par exemple, dans des formules qui sont de l'ordre, qui sont difficiles à comprendre. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Hein, vous trouvez ça hein, dans la Bible. Donc comment essayer de comprendre aujourd'hui cette volonté de reprise, de rédemption pour tous, alors que certaines formules, voilà, quand on les interprète mal ou aussi très littéralement, semblent donner de chemin irrémédiable. Voilà. Et saint Augustin, vieux, étalonné par quelqu'un de beaucoup plus jeune qui s'appelle Julien Desclanes et qui le met en face de ses contradictions. Saint Augustin, tu as écrit ça, mais autrefois tu disais ça. Bon, donc c'est un problème sur lequel on faudrait revenir très longtemps, hein, d'interprétation biblique, de la cohérence aussi du discours hein, magistériel, et puis d'une question aussi dont il faut parler, parce que j'ai nommé la pénitence, j'ai nommé l'Eucharistie, mais aussi le baptême. Bon, Jésus est mort pour nos péchés et notre vocation, c'est aussi de vivre le mieux ce lien qui s'appelle le baptême.
Alors, comment on est passé de cette conception au Moyen-Âge très culpabilisante, très dans la pénitence, dans l'expiation, à une théologie du péché peut-être un peu plus souple,
un travail de décompactage qui a été long, progressif et qui est loin d'être terminé. Pourquoi ? Parce qu'on a été longtemps dans une culture que certains qualifient volontiers de janséniste. Oui. Alors la question aussi se pose aussi de ce côté-là. Des théologiens modernes, je pense à quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Maurice Bellet, qui était aussi psychanalyste, a aidé à voir ce qui se jouait justement entre le péché et la culpabilité, hein, pour essayer de recentrer les choses. Bon, moi je trouve que le sacrement de la réconciliation, c'est sans doute un des plus beaux sacrements. Voilà, et que les gens qui soient libérés du poids du péché, ça c'est merveilleux, voilà, je vais dire ça comme ça, pour leur vie.
Mais vous évoquez dans votre article la crise du sacrement de pénitence aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les personnes pensent que elles n'ont plus besoin d'être libérées, peut-être.
Elles se sentent libérées, auto-libérées, et en même temps elles traînent de la mauvaise conscience, la culpabilité,
la mauvaise foi.
Tout y passe, mais il y a effectivement une crise que personne ne peut contester. Alors, vous savez, on faisait les confessions une fois par an, avant les grandes fêtes. Bon, et aujourd'hui, même des publics de religieuses que je côtoie, etc., pendant le confinement, ont bien eu du mal à pouvoir se confesser alors qu'elles ont une habitude, une pratique très, très, très ordinaire. Et je pense que c'est aussi une façon d'être honnête avec soi-même, de reconnaître que notre vie a certainement un peu dévié, qu'elle n'est pas toujours aussi droite qu'on voudrait, et que dans cette relation faussée et à soi et à Dieu, il y a sans doute, dans certains cas, un retour et puis une progression possible. Enfin, c'est surtout comme ça que je l'interprète.
Comment on comprend qu'aujourd'hui, les chrétiens, on va dire, les pratiquants, qui suivent un peu l'actualité de l'Église, les écrits, les encycliques et tout ça, on voit qu'il y a quand même une évolution sur cette notion de péché, de miséricorde. Il y a eu l'année de la miséricorde par le pape François qui a remis un peu au goût du jour aussi des choses qu'on pouvait penser un petit peu désuètes. Mais aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas l'Église, on va dire, ont toujours une idée, sont toujours marqués par le jansénisme. On a toujours l'image, les chrétiens sont toujours taxés de le péché, c'est la faute
si vous
de
voulez,
Dieu.
Pourquoi
on se traîne ça comme un peu emboulé,
parce qu'on a oscillé au niveau dogmatique et puis au niveau surtout des représentations qui n'ont rien à voir avec la théologie du péché, entre deux positions au plan éthique qui sont, un, le rigorisme, deux, le laxisme. Hein, le rigorisme, donc on est enfermé dans un carcan, etc., et il n'y a plus de possibilités, et on vit dans la crainte et dans la peur. Et effectivement, un certain nombre de gens aujourd'hui ont voulu ressortir de cette religion de la peur. Deux, laxisme, oh, c'est pas grave, écoutez, bon, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Donc voilà, trouver un chemin, c'est un peu une ligne de crête hein, que je décris ici, c'est quelque chose de difficile.
Est-ce que la psychologie complique les choses ?
Je pense que dans certains cas, elle ne les a pas totalement arrangées. Hein. Je pense que, voilà, mais c'est un point de vue personnel. Hein, mais je pense aussi que on est quand même une ère qui est, bon, voilà, d'autres le disent aussi, une ère victimaire. Et bon, il est plus facile de se situer dans ce genre de posture que d'accepter que nous ayons aussi, dans certains cas, à progresser personnellement et collectivement.
Alors justement, on touche au bout de cette émission, mais avant de vous quitter, de nous quitter, peut-être une question à chacun de vous. Aujourd'hui, comment vous définiriez le péché à quelqu'un qui, voilà, leur, en parler de manière positive, en réparation, une mauvaise définition qu'on s'est traînée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en dit pour que ce soit dit plus positivement, vécu plus positivement? Ah, c'est une question piège.
C'est une question difficile. Jean-François. Moi, je pense que les personnes valent plus que ce qui les dégrade, ce qui les ronge, ce qui les détruit, et qu'il y a toujours une possibilité de reprise de ce chemin et de cette aspiration au bonheur que tous nous cherchons. Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut dire aux gens. Quand on dit aux personnes « va et ne pêche plus », ça ne veut pas dire « voilà, ben maintenant il va falloir suivre le bon chemin », ça veut dire non. Cet appel à l'amour, à la miséricorde que tu as pu ressentir, tu es capable de le vivre. Et ça, c'est merveilleux. Les gens se remettent à marcher.
Marie-Françoise ?
Que le péché, c'est une expérience qui nous est assez propre à nous chrétiens, je pense. C'est une expérience de rupture et douloureuse, mais qui est en même temps est une approche de Dieu.
De belles définitions et de beaux mots d'espérance. Alors, je vais rappeler peut-être un peu vos livres à chacun. Je vous remercie pour d'avoir participé donc à cette émission. Alors, donc Jean-François Petit, hein, je rappelle vos livres. Ils furent pris d'une grande frayeur aux éditions Saint-Léger. Donc,
oui,
notamment, ça reprend des chroniques que vous avez écrites pendant la pandémie.
Voilà, j'ai fait une chronique de confinement. Bon, un certain nombre de personnes m'ont demandé d'écrire et j'ai écrit tous les jours pendant 54 jours pour essayer d'éclairer les débats éthiques qui se sont posées pendant le confinement. Bon, malheureusement, on se retrouve dans une situation aussi analogue. Et je crois qu'il est important de rester vigilant, autant dans les responsabilités publiques que dans l'agir quotidien de chacun de nous. Voilà, j'ai souhaité éclairer les gens autour de moi. Ces chroniques ont eu un certain succès. En tout cas, je pense qu'il faut garder aussi les yeux ouverts sur ce qui se passe.
Vous avez écrit aussi Michel Foucault, Michel de Certeau, Dialogue inachevé, et c'est paru aux éditions Parole et Silence. Et puis quant à vous, Marie-Françoise Basselès, vous avez collaboré donc à cet ouvrage Après Jésus, l'invention du christianisme, c'est paru chez Albin Michel, c'est tout récent. Et puis Comment les chrétiens deviennent catholiques, et ça donc c'est signé de votre plume, paru aux éditions Talendier.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience chrétienne. Le fait de vivre en chrétien dans ces premiers siècles, voilà. Donc c'est plutôt l'expérience de la faute, si vous voulez, comment elle ressentit la faute. Je laisse aux théologiens les développements dogmatiques.
De bonnes lectures peut-être à se procurer pendant ce temps de confinement. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Merci à Pierre qui a réalisé cette émission. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour Grand Angle. Très bonne soirée à tous.